Ben Lala.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode spécial de Ben Lala.
Ben Lala.
Ben, disons que dans la saison 8, on en a eu quelques-uns des épisodes spéciaux.
Ben Lala. Ben Lala.
Non, c'est vrai parce que Ben Lala est à nature pédagogique. Et j'ai eu plusieurs invités. Donc là, j'étais avec Marc. Salut Marc, comment ça va?
Ben, salut Benoît, ça va bien?
C'est pas toi qui est spécial? Non.
Ben, je pensais que c'était moi. Hein?
Ben écoute.
Tu as parlé d'être spécial, une saison spéciale. C'est quand même quelques fois cette saison-là.
Ouais, disons que depuis le début de la saison 8, effectivement, on a eu plusieurs invités spéciaux. Mais aujourd'hui, c'est spécial, spécial.
Puis, on monte une coche.
Exactement. On monte une coche, puis je pense que ça va être le fun de présenter notre invité de la semaine.
Je pense que oui.
Attention, attention. Voici notre invité de la semaine.
Donc, cette semaine, on a le privilège d'avoir Carlos Bergeron. Salut, Carlos.
Hey, Koué, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Ça va très bien, merci.
Est-ce que nous, on a le droit de le dire, Koué?
Bien sûr que oui.
Donc, Koué.
Koué.
Alors, Carlos, en fait, on se connaît sans se connaître parce qu'on est collègues de travail ici au Cégep. J'aimerais ça qu'on puisse te présenter aux auditeurs de Ben Lala. Donc, Carlos Bergeron, c'est qui?
Oui, donc moi, je suis membre de la communauté de Mastoyats, Pointe Bleue, comme nous on dit encore souvent. Je suis prof ici au Cégep de Chicoutimi depuis bientôt 30 ans. Donc, rattaché au département de littérature.
Tu n'as pas l'air à avoir 30 ans de carrière.
Non, hein? J'ai l'air jeune.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est-tu parce que tu te rases?
C'est parce que je me rase.
OK.
C'est parce que nous autres, là, les Inuits, quand on vieillit, on prend du poids. Fait qu'on n'a pas de rides.
OK.
OK, OK.
Mais je te confirme que les Québécois aussi.
C'est ça. OK. Donc, moi, j'ai pas de rides. Donc, c'est ça. Presque 30 ans, je suis ici. J'ai enseigné quand même 28 ans à travers tout ça à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai mené plusieurs projets à l'international, là, en Inde, au Maroc, et quand même des projets d'envergure. J'ai un doctorat en littérature, donc j'ai toujours beaucoup, beaucoup travaillé. Je me suis toujours poussé au-delà de ce que j'étais capable de faire tout le temps.
Un doctorat en littérature provenant de la communauté Innu, est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont capables de faire, en fait, qui se rendent jusqu'aux hautes études?
Parlons de toutes les communautés du monde. Les gens qui ont des doctorats, c'est quand même très rare.
C'est
donc,
vrai.
On parle de points, je ne sais pas c'est quoi le chiffre, là, mais au niveau mondial. Donc, c'est un diplôme qui n'est pas vraiment recherché parce que on peut l'utiliser pour aller à l'univers, pour travailler à l'université et tout ça, pour être chercheur, Donc, ce n'est pas un diplôme qui est vraiment, vraiment, vraiment couru. Et moi, je tenais vraiment à me rendre jusqu'au bout dans mon parcours. C'est vraiment important pour moi.
Mais déjà, d'aller faire des études doctorales, les réussir, puis d'être titulaire d'un diplôme de doctorat, il n'y a pas beaucoup de monde, peu importe la discipline.
Peu importe la discipline. Et c'est pour ça que j'en suis très fier. Puis j'en suis fier aussi parce que je suis Innu particulièrement. Pour moi, j'en suis très fier. Mon père est décédé, il était très jeune, donc il avait 57 ans. Et je suis sûr qu'il serait très fier de moi aussi aujourd'hui. Donc, s'il était là pour voir ça, j'y pense souvent en ce sens-là.
Dans ton parcours académique, Carlos, comment toi, quand tu étais au primaire pour au secondaire? Parce que, veux pas, c'est des périodes quand même qui sont critiques. Tu étais quel genre d'étudiant à ce moment-là?
J'étais un étudiant qui a vécu beaucoup d'intimidation.
Okay.
J'étais très, très, très retiré. J'avais un nom à part des autres. Ça s'appelait Carlos dans les années 60-70 à Chicoutimi. Ça part mal.
C'est pas évident.
Puis ajouter Bergeron à ça, ça marche pas, Carlos Bergeron.
Okay.
Donc, j'ai vécu énormément d'intimidation par rapport à ça puis par rapport à autre chose aussi. Donc, j'ai eu une enfance quand même difficile socialement parlant, une adolescence aussi, mais je suis quand même repris en main à la fin de l'adolescence.
Okay.
On parlait tout à l'heure, je parlais à beaucoup de gens aujourd'hui. Puis nous, les gens de mon âge, on a souvent grandi en se faisant dire que c'était pas beau d'être un autochtone, c'était pas une bonne chose, qu'on était sale, qu'on était sauvage. Donc, il y a beaucoup de gens de mon âge qui sont restés avec ça, cette honte-là. Puis moi, à la fin de mon adolescence, j'ai décidé que c'était non. Donc, dès la fin de mon adolescence, vers 19 ans, j'ai vraiment travaillé à ma fierté d'être autochtone. Tout le temps. Et à travers les années, ça a été toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc, je ne serai jamais autant fier d'être autochtone que je suis maintenant. ça va encore prendre beaucoup de temps. Ça va encore, je peux encore être encore plus fier encore peut-être plus tard. C'est vraiment à tous les jours que je développe ça.
Carlo, j'ai une question qui me vient en tête, parce que moi, je suis originaire de Robertval, donc j'ai fait mes études primaires et secondaires à Robertval, à côté de Pointe-Bleue. Quand tu disais Pointe-Bleue tout à l'heure, moi, ma jeunesse, on ne parlait pas de Mastaillage à ce moment-là, on parlait de Pointe-Bleue. Puis, donc, j'ai côtoyé beaucoup, beaucoup d'étudiants qui venaient de Pointe-Bleue. Est-ce que tu penses que ça pourrait être différent, comme nous, on est un petit plus petit milieu, que dans un milieu comme Chicoutimi, la relation qu'il pouvait y avoir là, entre les Allochtones et les Autochtones?
Tu veux dire à cette époque-là?
Oui, à cette époque-là ou aujourd'hui.
Ben, vous savez que la relation entre Allochtones et Autochtones a toujours été un peu difficile, et même entre Autochtones et Autochtones parfois, d'accord? Donc, on pourra en parler longtemps, là. D'accord? Mais, et ça n'a pas changé.
OK.
C'est-à-dire que ici au Cégep de Chicoutimi, on fait beaucoup de choses pour la sécurisation culturelle, ce qu'on appelle la sécurisation culturelle, mais ce sera très long avant d'abolir ces frontières-là et avant de vraiment faire en sorte que nos étudiants autochtones se sentent extrêmement bien dans un milieu aussi grand que Cégep de Chicoutimi. Vous partez, je ne sais pas moi, de Natashquan, de la Romaine, vous arrivez à Chicoutimi. Ça prend vraiment énormément de courage.
Effectivement.
On parle souvent de nos étudiants internationaux qui partent d'Afrique, qui ont peut-être un choc culturel en arrivant, bien, les étudiants autochtones aussi en ont un choc culturel en arrivant.
Le choc est si important que ça, Carlos. Bien,
on part d'une communauté. Je ne parle pas du choc de Mastoyache, il n'y en a pas. Je veux dire, c'est comme, c'est beaucoup moins important que si je parle d'une communauté qui est plus loin.
Okay.
Donc, le choc, il est là. C'est-à-dire qu'on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas à travers uniquement des Allochtones ou presque. Et ce n'est pas parce que je suis un étudiant autochtone qui vient au Cégep de Chicoutimi que je connais tous les étudiants autochtones qui sont ici. Ils ne se connaissent pas. Ils viennent de communautés différentes. Ceux qui se connaissent, c'est ceux qui viennent de la même communauté et qui viennent souvent ensemble ou ils se connaissent ici là, par la force des choses. Mais vous savez, donc il y a vraiment un choc culturel. Il y a vraiment un mur et les étudiants doivent travailler très fort pour s'acclimater, pour arriver à l'heure au cours, pour... c'est toute une nouvelle gestion du temps auquel ils ne sont pas habitués non plus. Donc, c'est vraiment une nouvelle vie. Ça prend énormément de courage.
Et je comprends. Oui. Puis pour l'avoir un petit peu vécu dans le passé, parce que je suis allé donner des formations là, sur différentes réserves, puis à ce moment-là, dans différents endroits. Puis c'est vrai qu'il y a une dynamique qui est différente. Il y a une énergie aussi qui est différente de ce qu'on va retrouver ici. Là. Moi, en tout cas, à l'époque, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, à la première approche, des fois, tu arrives, tu fais « oups », mais à force de discuter avec ces gens-là, c'est tellement enrichissant, c'est tellement ce qu'ils te racontent. Je suis allé au lac Mistassini ou encore au Djibougamou, c'était vraiment magnifique ce que j'ai vécu à ce moment-là. Là.
Il faut décoder les codes culturels d'une autre façon quand on parle à des Autochtones. C'est-à-dire qu'il y a une autre façon de comprendre le paraverbal, le visage, les traits du visage, les échanges de regards. Ça ne se fait pas de la même façon. Je ne vous parle pas de moi parce que moi, je suis vraiment ici au Cégep depuis plusieurs années et que j'ai grandi en ville. Là. D'accord? Donc, les codes autochtones sont différents. Les gens pensent que ce n'est pas tant de différences culturelles. Oui, il y a des différences culturelles. Il y a 11 nations, c'est 11 cultures différentes.
Mais c'est 11 codes... dans le fond, quand tu parles de code culturel, si, mettons, je veux m'outiller pour essayer de tu sais, dans le fond, de les décoder comme il faut puis de les comprendre, qu'est-ce que tu me suggérerais pour, tu sais, comme, à être attentif à quoi pour être capable de bien comprendre?
Je prends l'exemple de ce que fait ici Nancy Vaillancourt au Cégep de Chicoutimi. Mm-hmm. Ils ont un projet de recherche. Est-ce que vous y avez participé?
Indirectement. Indirectement, puis je sais qu'on... En tout cas, il faut qu'on en parle pour être capable de faire une demande pour avoir ce... Il y a comme une activité spéciale qui est rattachée à ça.
Ça traite vraiment de ça. C'est-à-dire que Nancy, en fait, est rattachée au département de sciences infirmières. Je ne sais pas si c'est le bon nom du département.
Soins infirmiers.
Soins infirmiers. Et ils ont un programme auquel je participe, d'ailleurs, à titre de personne bénévole. Donc, je joue le patient autochtone. Et, en fait, l'expérience est la suivante. Je parle en leur nom, je m'excuse, mais je suis sûr qu'ils vont être contents quand même s'ils entendent ça, parce que ça leur donne tout le crédit, dans le fond. Donc, l'expérience est la suivante, c'est que ce soit des expériences avec des étudiants, futurs infirmières, futurs paramédics, physio, peu importe, c'est Job de Chicoutimi, c'est Job de la santé. Donc, ils viennent, ils sont dans une salle, et moi, je joue le patient autochtone à qui on vient donner des soins à domicile. Et là, les étudiants doivent communiquer avec moi. Comment ils vont faire? Comment ils vont gérer les silences? Le silence n'est pas géré de la même façon chez les autochtones que chez les allochtones. Nous autres, on n'a pas toujours besoin de parler. On peut rester silencieux côte à côte très longtemps sans rien dire, puis c'est pas grave. Comment l'étudiant va gérer l'absence d'échange de regard direct? Si vous connaissez des autochtones, il est possible qu'on vous parle sans vous regarder, alors que dans la culture allochtone, c'est tellement valorisé. Et on dit qu'il faut regarder quand on parle à quelqu'un, alors que nous autres, pas ça. C'est pas nécessairement ça. Donc, le degré d'intimité n'est pas assez fort pour qu'on puisse toujours regarder quelqu'un. Là.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, justement, quand tu parles avec un autochtone et qu'il ne te regarde pas et qu'on communique ensemble?
Ça veut rien dire.
Ça veut rien dire?
Non, c'est juste un code culturel.
Okay.
Ça veut rien dire. Certains pourront vous dire, par contre, qu'ils se sentent intimidés face à un allochtone. C'est un allochtone qui est là. Mais entre autochtones aussi, on ne se regarde pas tout le temps, là. Ça peut vouloir dire différentes affaires, mais je pense que c'est une façon de faire, tout simplement.
Là, ça me met mal à l'aise parce que je te regarde continuellement.
Non, c'est correct.
Moi, je regarde pas Marc, je suis vraiment bien.
Je suis habitué, on se regarde. Okay. Je te donne des cours en communication ici.
Mais il ne faut pas oublier que Carlos, c'est quand même un prof.
Oui, ouais, effectivement.
Je suis un prof, donc je me vois mal donner un cours en regardant personne.
OK. Que tu peux continuer dans ces exemples-là, parce que je trouve ça important de démystifier puis de jaser de ça, parce que il y a beaucoup d'incompréhension, je pense, de part et d'autre. Puis, tu sais, tu enseignes la communication. Tu sais, c'est souvent un des problèmes entre peuples où on n'est pas capable de se parler, puis on n'est pas capable de se décoder, qu'on n'est pas capable de faire preuve d'empathie. Et que là, on dirait que ça vient chercher nos racines, puis que là, on veut soit s'affirmer ou soit qu'on. On ne comprend pas le comportement de l'autre, puis des fois, on tombe facilement dans le jugement.
Mais imagine, souvent, on parle français, mais on ne se comprend même pas en parlant français.
Mm. Ouais, tu vois, là, ça fait 8 saisons qu'on fait ensemble, j'ai rien compris de tout ce que tu as dit.
Déjà 8 saisons?
Wow. Ouais, saison 8. Wow. Donc, tu vois, ça fait longtemps que je voulais te parler.
Bien, il y a des codes. Toutes les cultures ont leurs codes. Pas seulement les Autochtones, pas seulement les Allochtones. Toutes les cultures ont leurs codes. Les Français ont leurs codes, les Américains. Les Québécois ont leur code. Un Québécois, c'est-tu plus un Français ou un Américain, selon vous?
Dur à dire.
Bon. Il est très américanisé, en
tout cas. Ouais. Un Québécois, c'est quelqu'un, à quelque part, qui a aussi des traces d'Autochtones autour de lui.
Tout à fait.
Donc, on ne peut pas faire part, on peut pas faire fi de ça, parce que le territoire québécois appartient aux Autochtones.
Effectivement.
Il a été pris de force.
Effectivement.
D'accord? Donc, il a été pris de force. Le territoire appartient aux Autochtones. Et c'est le drame. Dans le fond, c'est comme si on allait chez vous, puis on prenait votre maison, puis on vous disait partez.
On va rester ailleurs.
J'arrive chez vous, Marc, hey, go, tu t'en vas chez nous, ça. Là.
J'aime ton petit coin, je le prends.
Je te donne le cabanon, puis moi, je garde le reste. Toi, tu t'en vas avec ta famille dans le cabanon. Un petit peu ça. La réserve versus le territoire. Là.
Effectivement.
Hein? On crée une réserve. Réserve, c'est un mot maintenant qu'on juge un peu raciste. On va plus dire village autochtone ou communauté. Donc, dans le langage gouvernemental, on va dire réserve encore et tout ça, comme le mot indien, la loi sur les Indiens et tout ça. Le mot indien est un mot qui est considéré maintenant un peu comme raciste aussi. Nous, on va se le dire entre nous pour rire ou parce qu'on est habitué, mais on va davantage dire aussi autochtone, Première Nation ou le nom de la nation, Innu, Atikamekw, Wendat, etc.
Effectivement. Puis tu me diras si je me trompe, mais je pense que les anciens ont un rôle important dans la culture autochtone, peu importe les...
Tout le temps.
Tout le temps.
Tout le temps. Les anciens, c'est les porteurs du savoir dans toutes les cultures autochtones, selon moi. Pas seulement ici au Canada, ailleurs aussi. Ici, la population autochtone a souvent oublié que les grands-parents, les anciens, il fallait les écouter, puis c'est des porteurs de savoir. Nous, on le sait. On le sait que les anciens, c'est des porteurs de savoir. On sait que les aînés connaissent des choses. Puis c'est grâce à eux si tout le savoir s'est transmis depuis plusieurs millénaires. Écoutez, on parle ici au Québec, 10 000 ans peut-être, de présence autochtone. Rien n'y a été écrit jusqu'à tout récemment. Tout s'est transmis par voie orale. Rien n'a été écrit. Et malgré les pensionnats qui ont duré 150 ans, tout a ressurgi quand même. C'est de la force, ça.
Ah oui.
Ça... On parle d'une force extraordinaire. C'est miraculeux. On parle d'une force extraordinaire chez les peuples autochtones. J'en parle, j'ai beaucoup de frissons. Extraordinaire chez les peuples autochtones, mettons, du Québec, parce que la situation aussi au Canada anglais, il y en a partout. Mais prenons le Québec, c'est une force extraordinaire, une résilience extraordinaire d'avoir survécu et d'encore vouloir étudier, d'encore vouloir... D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Qui... J'ai dit extraordinaire 5 fois, là, mais vous savez...
Donc, c'est vraiment extraordinaire.
C'est vraiment extraordinaire.
Mais tu parles de cette force-là, la spiritualité dans tout ça, parce que à un moment donné, pour que ça... Tu sais, avec toutes les... On va appeler ça des misères, on s'entend, ouais. Là, avec toutes les tragédies que votre peuple a vécues, il a fallu que la spiritualité s'en mêle en quelque sorte pour que ça perdure.
Vous savez, c'est un beau paradoxe que tu soulèves, Benoît. C'est-à-dire que... comment vous dire ça sans faire d'étincelles? Je vais vous donner mon point de vue à moi. OK? Il y a la spiritualité autochtone, puis il y a la spiritualité allochtone qui a été inculquée aux Autochtones, qui est celle qui est pratiquée le plus.
Ah ouais.
Le christianisme, le protestantisme, mm-hmm. et tout ça.
Okay.
Donc, beaucoup d'Autochtones sont très, très croyants. Donc, le crucifix, la messe, le peuple autochtone est très croyant selon les principes du christianisme, mais ils vont mélanger aussi des... rituel de l'ancienne religion, donc qui est une religion qui est plutôt axée sur les éléments naturels. Tantôt, avant de commencer, j'ai fait brûler de la sauge, donc pour purifier. Donc, la sauge est un élément naturel. Donc, il y a des herbes, le tabac, le foin d'odeur, des herbes sacrées qui vont encore être utilisées aujourd'hui, malgré le christianisme. Vous savez que jusqu'en 84, quand le pape Jean-Paul II est venu au Québec, il est venu à Montréal, si je me souviens bien, les Autochtones n'avaient pas le droit de manifester leur religion. Ils n'avaient pas le droit de faire des powwows. Ils n'avaient pas le droit de...
Avant 1980.
Ouais, c'est le pape qui a donné le OK. Le pape Jean-Paul II a dit, maintenant, les Autochtones ont le droit de pratiquer leur spiritualité parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Là, je paraphrase le pape Jean-Paul II. Il a dû dire ça d'une autre façon. Il n'y a qu'un seul Dieu.
Et probablement dans une autre langue.
Dans une autre langue. Ouais, donc, mais en 84... Jusque dans les années 80, si tu allais à l'université, tu perdais ton statut d'Autochtone aussi.
Comment?
Le gouvernement ne voulait pas que les Autochtones soient instruits. Ils perdaient leur statut d'Autochtone. Donc, les gens ne pouvaient pas aller s'instruire.
Ben voyons donc.
Dans les années 80, moi, je suis passé flush.
Il n'y a pas si longtemps, là. Je veux dire, moi, je suis rentré à l'université dans ces temps-là.
Il n'y a pas si longtemps. Moi aussi, il n'y a pas si longtemps. On parle, c'est hier, hein? Oui. Donc, c'était le gouvernement faisait perdre le statut, donc tu ne pouvais pas t'instruire.
Ben voyons donc.
C'était contre le projet du gouvernement, encore maintenant, d'une façon insidieuse, c'est un peu ça encore, de diluer la culture à travers... tu sais, on donne beaucoup de cartes de statut à tout le monde. On dirait qu'il y a plein de monde qui ont des cartes de statut, là.
Tout d'un coup, hein?
Ben ça ne marche pas, ça. C'est une carte de statut, là. Nous autres, ceux qui sont autochtones sont contre parce que le plan du gouvernement, selon moi, c'est vraiment de diluer la culture. Donc, un peu comme les pensionnats ont fait, un peu comme la culture va finir par se perdre si tout le monde a un statut. Parce que la majorité des personnes qui ont des cartes de statut, les ont pourquoi?
Pour ne pas payer de taxes.
Ben, tu sais,
c'est pas la bonne raison.
C'est pas vrai, parce qu'on en paye des taxes. Il y a plein de règles pour ne pas payer de taxes. Il y en a 3, en fait, là. Mais il y a d'autres privilèges qui sont associés à la carte de statut qui ne sont pas nombreux. Mais, tu sais, la carte de statut, c'est avant tout la fierté d'être autochtone. C'est un statut, t'es autochtone.
C'est exactement ce que je pensais. Il me semble que c'est j'ai cette carte-là, c'est parce que, à quelque
c'est
part,
un statut.
Je suis autochtone, je suis pas...
Tu sais, on parle d'un statut, c'est pas n'importe quoi, là.
C'est une reconnaissance.
C'est une reconnaissance, c'est un statut, ça prouve qui tu es, ça prouve ton identité. Si tu t'identifies pas à ça, prends pas ta carte. Laisse ça à ceux qui s'identifient à ça. Laisse ça. Puis la loi sur les Indiens se modifie tout le temps, au fur et à mesure.
Mais il ne serait pas temps qu'ils changent le terme de la loi sur les Indiens. C'est fédéral, ça?
Oui, c'est fédéral. Bien, tout ce qui est lié aux Autochtones, c'est toujours fédéral. Les communautés autochtones, c'est régi par le fédéral. Ça serait le temps.
On pourrait le dire à Poilievre. Poilievre, tu veux le contrôle, là? Oui, go.
Exactement. Go.
Non, mais tu sais, c'est fait. Parce que Trudeau, il le fera possiblement pas. Là. Je ne veux pas me lancer en politique aujourd'hui dans une grande discussion, mais tu sais, on est rendu qu'on... qu'on s'insurge sur des mots qu'on ne peut plus dire, comme exact. Le mot en haine, par exemple.
Mais
ben là, pourquoi dans ta loi, tantôt tu parlais d'utiliser le mot indien, c'était considéré comme du racisme?
Ben, une forme de, pas nécessairement du racisme direct, mais indirect, ouais. Quand c'est dit par un allochtone, il faut toujours nuancer.
Ben, ouais. C'est ça, c'est parce que le mot en haine utilisé par deux personnes... en fait, je ne sais pas comment le dire sans heurter personne.
Par exemple, deux personnes africaines qui vont se rencontrer dans un langage d'amitié, de chum, de gars, ils peuvent se traiter.
Ouais.
Mais c'est juste eux autres qui peuvent le faire.
Exactement.
C'est pour rire, puis il y a une distance, il y a toute une conscience sociale derrière ça. C'est comme si moi, je parle à un ami, puis je dis « Hey, mon sauvage, viens-t'en, un ami autochtone. » Je vais pouvoir le faire parce qu'on a un lien, parce qu'on a une conscience, tu sais.
Ben, vous savez que c'est pas,
pour atteindre raciste, la personne. C'est pas raciste.
Ouais.
Mais prenez ça pour n'importe quelle communauté, minorité sexuelle, peu importe. Tu peux nommer des personnes pour rire, pour... Mais ça t'appartient à toi, les autres ne peuvent pas le dire, eux. Est-ce que vous comprenez
ce que je veux dire? Oui, tout à fait.
Effectivement.
Tu sais, il y a vraiment... il faut vraiment être sincère, puis il faut vraiment... dans cette façon-là de nommer les choses, être honnête. Moi, je n'irais pas traiter quelqu'un d'Africain, je n'irais pas donner un nom raciste parce que je serais raciste.
Non, non, c'est sûr.
Puis si en même temps, tu le dis tout à l'heure, c'est quand t'es en chum, t'es en ami,
c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On rit, on a du plaisir. On est de la même culture, on est de la même race. On peut le faire pour rire. Mais jamais pour vrai ou pour... d'accord, c'est autre chose, ça. Donc, puis il y en a qui le feront jamais non plus. Il y en a pour qui c'est inadmissible. Voilà, donc c'est pas tout le monde. Je vous parle de mon point de vue à moi toujours. Hein.
Oui.
Je ne vais pas généraliser. C'est vraiment moi qui assume qu'est-ce que je dis maintenant. Donc, selon moi.
Puis de toute façon, Carlos, il a toujours assumé ce qu'il disait.
Ouais, oh,
oui.
J'essaie le plus possible.
Carlos, est-ce que tu trouves que, en fait, même s'il y a encore du retard à rattraper, est-ce que tu trouves que dans les dernières années, il y a quand même eu une progression? Est-ce qu'il y a eu des changements, selon toi, dans les dernières années?
Joyce Echaquan a fait un changement, d'accord? Ça prend souvent des gros drames comme ça pour que l'humanité, peut-être pas l'humanité, c'est un grand mot, mais pour que la société réfléchisse, d'accord? On parlait de racisme systémique, dont Joyce Echaquan a été victime. On l'a laissé mourir. Elle a eu le réflexe de filmer afin de montrer aux gens. Donc, Joyce Echaquan a vraiment créé un avant et un après elle. Parallèlement, je pourrais vous dire que oui, les consciences se sont élargies. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais il y a beaucoup de paroles en l'air aussi. Puis...
Mais changer changer quelque chose qui est ancré dans la culture, dans la société, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts.
Ça demande énormément de temps et d'efforts. C'est sûr qu'il y a des belles choses qui se font. Juste ici, dans notre milieu de travail, ici, on est dans le local des étudiants autochtones, on n'aurait pas eu ça avant. Il va y avoir un cours l'automne prochain que je suis en train de préparer, un cours de français d'accueil pour les étudiants autochtones. Qui est pensé selon la pédagogie autochtone, donc selon la transmission des savoirs à la façon autochtone.
Donc, ils ne prendront pas de notes.
Ça va être...
Si je fais un lien avec ce que tu disais tantôt...
À quelque part, on part d'abord de l'oral pour aller vers l'écrit. C'est dans la culture.
Ah ben, tu vois.
Donc, il y a une partie orale qui est importante.
Pas dans
la forme exposorale, mais dans le fait de partager, cercle de partage et tout ça. Aller en forêt, c'est important, aller en forêt pour les Autochtones. Ça fait partie du cours. C'est important d'aller en forêt. C'est important de sortir. C'est important de partager son identité. C'est important de faire un projet communautaire, tout le monde ensemble. On vient de communauté.
Et tu vois, moi, ce genre de cours-là, j'aimerais ça le suivre.
Ben, moi aussi. Mais
tiendras le suivre, Marc, mais t'es pas autochtone.
Mais je suis pas autochtone.
C'est vraiment réservé. Puis en plus, ça va se donner à l'automne et à l'hiver.
Ah, wow.
Discours des premiers peuples, que ça va s'appeler. Donc, c'est vraiment un cours qui est vraiment pensé par un autochtone et pour les autochtones. Il va y avoir un guide pédagogique pour accompagner le cours au cas où qu'un prof allochtone le donne, ce qui pourrait arriver. Donc, il va y avoir un guide pédagogique pour aider. Il va y avoir des objets référentiels culturels disponibles aussi.
Je trouve ça vraiment génial.
Qu'on va vraiment mettre à la disposition comme un tambour, par exemple, ou de la sauge, des plumes, etc., de la pipe.
Tu parlais tout à l'heure, Carlos, qu'au cégep, bon, il y a le local ici, tout ça. Donc, moi, je me souviens, quand je suis arrivé, il y avait Michel Martin.
Oui, Michel Martin a fait beaucoup.
Puis Michel a travaillé fort.
Très fort.
Puis ce que je vois, en tout cas, je pense que ça a évolué, pas encore suffisamment, mais beaucoup ici au cégep de Chicoutimi.
Oui, oui, Michel, c'est une pierre angulaire. Michel Martin, c'est une pierre angulaire dans le développement des affaires autochtones ici au cégep de Chicoutimi. Il y avait avant Michel, puis il y a après Michel aussi. D'accord? Oui. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est important, qui a laissé une trace la semaine Mamo en études.
Oui.
La courte pointe que vous voyez ici, c'est la première courte pointe qu'on a réalisée lors de la première semaine Mamo en 2018. C'est Michel, d'ailleurs, qui l'a cousu. Là. Chacun a fait un petit carreau, personnellement, puis ça a été relié, parce que les couvertures sont vraiment importantes dans notre culture. Donc, chacun a fait un petit carreau, puis Michel les a toutes reliées, là, avec Natacha Canapé-Fontaine, je crois, qui était là aussi.
On prendra la photo tout à l'heure avec,
oui.
pour mettre sur le balado dans la diffusion.
Super. Ouais, donc, c'est vraiment un symbole qui est important. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y en a beaucoup encore maintenant. Puis, il y avait avant Michel aussi. Hein, dans mon temps, quand j'étais jeune prof, moi, les étudiants autochtones venaient me voir dans mon bureau, puis on se mettait de la musique qui nous, puis on fermait la porte, là. C'était pas bien vu, puis il y avait carrément pas de place. J'ai rencontré une ancienne étudiante de Pessamite qui me disait « Je me suis jamais senti aussi seul quand je suis allé au cégep de Chicoutimi. » Parle de 20 ans, 25 ans. Là. Je me suis jamais senti aussi seul. Maintenant, les choses sont plus pareilles. Maintenant, on travaille fort à transformer les choses. Le local, la semaine Mamo, le cours qui s'en vient, prochaine session. On travaille fort à transformer les choses, à faire de la place, à sécuriser nos étudiants autochtones. La sécurisation, ça passe par des espaces dédiés, comme on a ici. Ça passe par des activités culturelles, comme la semaine Mamo qui va avoir lieu la semaine prochaine, entre autres.
Parle-nous-en donc, justement, de cette semaine-là.
La belle semaine Mamo que j'ai orchestrée... En fait, avec un comité constitué d'étudiants et de quelques membres du personnel. Donc, la semaine Mamo veut dire ensemble, Mamo veut dire ensemble. Donc, c'est la semaine de la fierté autochtone, on pourrait l'appeler comme ça. C'est une semaine pendant laquelle on met de l'avant, dans les murs du cégep de Chicoutimi, la culture autochtone, justement. Ici, les deux grandes communautés sont les Innus et les Atikameks. Donc, en majorité Innus, parce qu'on est sur un territoire Innus. Mais aussi, il y a des Atikameks qui viennent à notre cégep, puis ça crée une belle synergie. Donc, la semaine Mamo est une semaine dans laquelle il y a des activités. Il va y avoir, par exemple, le chanteur Shawit, qui est un chanteur qui est très connu, qui a remporté le disque de l'année en langue autochtone à la disque, par exemple, en 2023. C'est quelqu'un qui est connu, on a beaucoup de chance, qui a accepté de venir nous rencontrer lundi. Son spectacle, c'est lundi midi. On va monter un campement autochtone dans la cour intérieure du cégep lundi après-midi. Donc, avec un poêle à bois, du sapinage dans le fond. Vraiment, comme on fait, le campement, c'est un beau symbole. C'est pas seulement le symbole du nomadisme, mais c'est aussi le symbole où l'homme fait un avec la nature. Tu sais, dormir sous la tente, sur un lit de sapin. C'est quelque chose, tu fais un avec ton environnement, tu entends tout ce qui se passe dehors, tu entends. Donc, on va avoir un campement symbolique, donc du lundi au jeudi. Le mardi, bien, pendant tout ça, bien sûr, moi, je suis là pour animer, je vais faire des mitaines en direct, puis je vais aussi tenir des ateliers de capteurs de rêves. Il y aura aussi Mme Wapistan Lalo, qui est une de nos étudiantes Innus de la Romaine, qui va donner un atelier de confection de bannick le mardi après-midi. Donc, elle va montrer à l'assistance comment faire la bannick traditionnelle et on va la faire cuire dans le campement, donc sur le poêle à bois, là, directement dans la tente. Ça va vraiment être vraiment intéressant. Il y a aussi Mme Valérie Ouellette, qui est un prof en sciences humaines ici du cégep de Chicoutimi, qui va donner une conférence le jeudi matin. Donc, une conférence qui portera sur les grands jalons de l'histoire autochtone depuis la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui. On va faire des belles découvertes dans cette conférence-là parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Donc, et qui sont intéressantes à entendre. J'ai sauté le mercredi. Il y a beaucoup de choses, vous voyez.
Ben oui,
le mercredi, il y a le film Wapishka, donc qui fait encore les festivals au moment où est-ce qu'on se parle. Donc, c'est comme un honneur de l'avoir. C'est un privilège parce qu'il n'est pas encore disponible nulle part. Mais on a reçu la licence pour le diffuser uniquement une fois pendant la semaine Mamo. Donc, Wapishka, qui parle vraiment de réconciliation. Donc, c'est un court-métrage racontant l'histoire d'Alloctones et d'Autochtones qui traversent les monts Wapishka dans le Nitassinan de Pessamite. Et qui font face à un climat qui est austère, à des difficultés de toutes sortes. et qui, bien, on se rend compte qu'au fur et à mesure que le documentaire progresse, bien, que les deux groupes arrivent à plus se parler, à plus partager. À, d'accord? Donc, c'est ça, la réconciliation. Souvent, ça arrive dans l'adversité quand on doit tous les deux hein, faire face aux mêmes épreuves. Donc, on voit le partage et tout ça. Donc, c'est vraiment un film qui porte sur la réconciliation puis qui est vraiment intéressant à voir. C'est 30 minutes. Après le film, il va y avoir une discussion. Et on finit le jeudi, après la conférence de Mme Ouellette, on va finir jeudi avec les danseurs traditionnels de Mastoyach et de Robertval. Donc, des aînés, mais aussi des jeunes. Donc, on a vraiment des deux groupes d'âge. Je pense, entre autres, à Mme Lise Gagnon et à Mme Cocum Germaine Dubé qui vont venir danser, nous montrer des danses additionnelles. Et à des jeunes, j'ai un jeune de 15 ans qui s'appelle Noah Xavier Ducasse qui va venir aussi nous montrer une danse traditionnelle. Donc, un peu comme un parois. Le tout va être arrangé, animé par Mike Paul, un chanteur international qui a performé en France, dans plusieurs pays, et qui est en fait un artiste multidisciplinaire. Mike, c'est quelqu'un en fait qui fait partie de ma famille aussi. Donc, c'est un petit cousin. On va dire, on est tous liés. On est tous cousins.
Il y a un lien.
Je suis fier de lui, en tout cas. Donc, c'est lui qui va animer ça. Il va me porter son tambour. Puis, on promet vraiment une finale jeudi à l'heure du midi au Cégep de Chicoutimi. Vraiment une finale qui va être intéressante et culturellement là, superbe. Donc,
mais c'est... comment on fait, Carlos, pour aller chercher? Parce que tu parlais là, tout à l'heure d'un chanteur. Tu parles bon, de Mike, tu parles de
Shawit, par exemple. Mike. Ça,
c'est quand même pas facile à aller chercher. Là. Comment on fait pour aller dire à ces gens-là, venez-vous-en chez nous? Là,
dans le milieu, les Allochtones oublient que dans le milieu autochtone, il y a de la culture, il y a des chanteurs, des écrivains. Puis le milieu autochtone, il n'est pas grand. On se connaît toujours un peu. Moi, dans mon Facebook, je l'avais, Shawit. Donc, puis le sens du végétarien n'est pas le même. C'est une autre culture. Donc, j'ai parlé, bien, dit, communique avec mon agent. J'ai communiqué avec son agent, puis là, j'ai négocié, puis finalement, bien, de fil en aiguille, c'est ça. Mike, bien, c'est un ami à moi, un ami proche, fait que c'est sûr qu'il a accepté. C'était un peu plus facile. C'est lui qui va nous louer sa tente aussi. Donc, il m'aide beaucoup, il m'a beaucoup aidé là, pour pouvoir tout l'aspect logistique de tente, puis de jeudi, là, les danses traditionnelles, mais il met en contact avec du monde aussi.
Donc, il est très impliqué.
Oui, il est très impliqué. C'est quelqu'un qui dévore la culture autochtone. C'est un beau représentant. C'est un conteur. Je travaille avec lui à la transcription de contes et légendes de Mastoyach. Donc, okay. Je suis en train de d'écrire ça. On a enregistré des gens, dont lui, dont un aîné de Mastoyach, dans lequel on... Donc, je suis en train de transcrire les contes. J'ai tout transcrit de l'oral. On avait enregistré. Puis, je vais faire un manuel scolaire, justement. Donc, okay. Contes de ma communauté, mais aussi partie didactique pour étudier ces contes-là.
C'est bon.
Oui, c'est bon.
Donc,
tantôt, tu parlais, parce que tu le disais à quelques reprises.
Oui.
Le mot « power ».
Oui.
Parce que moi, dans ma jeunesse, là, tu sais, quand on disait c'était tout un « power ».
C'était un gros party où est-ce que tout le monde était pacté.
Exactement. et j'ai l'impression que c'est pas la même signification. Non. Donc, puis j'ai l'impression que l'expression qu'on voulait emprunter, je pense.
Ça, oui,
c'est,
oui.
Puis c'est mal, en fait, c'est mal appliqué dans son usage. Là. Mais j'aimerais ça que tu nous l'expliques, parce que ceux qui ont entendu, ça a tout un power, power. Tu sais, il y en a peut-être qui l'ont décodé.
Je pense que c'est un gros
de
party.
D'une autre façon.
Maintenant, le power, on va l'appeler le grand rassemblement des Premières Nations. Mais c'est power, ça veut dire ça.
Okay.
Donc, comme la semaine Mamou, moi, j'ai pas voulu qu'on mette Mamou ensemble. Je veux avoir juste Mamou.
Mm-hmm.
L'année passée, on avait mis Mamou ensemble, puis j'aimais pas ça. Je préfère avoir juste Mamou. Si les gens veulent savoir c'est quoi, bien qu'ils le demandent. Il me semble que semaine, c'est en français, Mamou. Donc, dans un powwow, c'est un grand rassemblement des Premières Nations. Ce qu'on va faire jeudi, c'est pas un powwow, parce qu'on n'est pas dans une communauté. Puis c'est régi, le powwow est régi par exemple, tu vas rentrer par l'Est. Etc. Il y a plein de codes qu'il faut respecter. On peut pas faire ça ici. D'accord? Donc, mais il va y avoir des danses traditionnelles. Donc, un powwow, c'est quoi? C'est un rassemblement où les gens dans telle communauté, vont arriver et vont faire des activités sportives traditionnelles, du portage, de la course de canot, blablabla, d'accord? Il va y avoir des spectacles liés qui vont mettre en scène des artistes autochtones. Que, par exemple, Shawit va revenir pendant l'été au Power de Mastoyat.
Okay.
Donc, c'est lui qui va être là, entre autres. Il va y avoir des danses dans ces cercles, des spectacles de danse traditionnelle. La population est invitée à rejoindre la communauté de Pointe-Bleue. Tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Mais dans un Power, il n'y a pas d'alcool.
Okay.
C'est zéro alcool. C'est sans alcool. Il n'y a pas de bar. Il n'y a pas de... C'est vraiment...
C'est festif.
C'est festif, mais sans alcool. Donc, seulement des boissons douces, du jus, de la liqueur. Vous pouvez manger aussi des mets traditionnels, comme par exemple le jeudi de la semaine Mamou, il y aura un dîner autochtone de Pawa, parce que c'est les étudiants qui m'ont demandé de faire ça, demandé de donner, parce que les étudiants m'ont beaucoup conseillé. Donc, il va y avoir des tacos indiens.
des tacos indiens.
On mange ça dans les Pawa. Donc, c'est une bannick frite sur lequel on met un mélange de tacos. Évidemment, on va ça avec la viande d'orignal, mais ça, on ne pourra pas. Ça va être du bœuf, mais ça ressemble à des tacos. Donc, okay. Ça, dans les Power, on en mange des tacos indiens souvent. Là. C'est festif.
Ça c'est rappelle. Jeudi. Hein, faut...
Jeudi midi à cafétéria,
pour ne pas manquer ça.
Et il va y avoir vraiment la soupe au poisson blanc faite par Mme Gil Casavant de Mastouillage, qui a gagné un prix avec cette soupe-là, un prix culinaire, ouais. Comme entrée, la salade des trois sœurs, comme dessert, la croustade au bleuet. Donc, on a axé sur un mec autochtone ou d'inspiration autochtone, du moins.
Donc, ça va être une semaine de découverte. Là,
de... Découverte de tout, oui, tout le temps de découverte. Puis c'est ça qui est magnifique. Et c'est comme ça qu'on se fait connaître. C'est comme ça qu'on dit aux gens, regardez-nous, on est là.
Oui, démystifier tout
ça. Démystifier, c'est pour ça qu'on se fait connaître. Regardez-nous, on est là, on existe. T'sais? Si vous ne venez pas au Power, ben on va vous en montrer des danses traditionnelles. Ici, à Chicoutimi.
Ah, c'est bon.
C'est quelque chose.
C'est d'amener la culture
ici. D'amener la culture ici pour la montrer. Mm-hmm. C'est tellement beau.
Mm.
Les régalias, les robes, tout ça, c'est tellement beau.
Ça m'amène...
La couleur.
Ça m'amène un peu sur... En fait, un peu le dernier sujet que je voulais aborder avec toi.
Oui.
Parce que je vais assurément te réinviter parce qu'il y a d'autres questions que j'ai pour toi. Tu es un artiste.
Oui.
Puis aussi une personne d'affaires par le fait même parce que tu fais le commerce aussi un peu de ça.
Oui, oui.
Puis on s'entend, là, commerce, là, c'est pas dans le sens... on va retrouver ton art sur des grandes surfaces... Tu prends ton numéro, tu attends le nombre d'années
qu'il faut. Ça m'a amené chez ton tour.
Je le sais. Moi, j'ai pas de date, j'ai pas mon numéro, mais je sais que je suis sur la liste.
Ça va arriver.
Et je
ça
sais pas arriver. Ce que c'est. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton art,
ouais.
De tu sais que ça vient, qu'est-ce qui t'inspire.
C'est une médecine pour moi. Okay. C'est vraiment une médecine. Quand j'ai commencé à faire de l'artisanat autochtone, quand j'ai commencé à explorer ça en moi, je suis vraiment lié à mes ancêtres. Nous, on croit beaucoup au pouvoir des rêves. J'ai fait beaucoup de rêves. J'ai eu beaucoup d'enseignements par les rêves.
OK.
C'est trop long à expliquer. Mais quand j'ai commencé à faire de l'art autochtone, je me suis vraiment lié à ce que j'étais profondément en dedans de moi. Et chaque fois que j'en fais, c'est ça. Et mon art est particulier. Puis c'est pour ça que c'est long, parce que je le fais tout à l'aiguille. Donc, je ne prends pas de machine. Tout est fait à la main, comme le faisaient les ancêtres aussi. Donc, vraiment, il n'y a aucune machine. C'est vraiment la doublure des mocassins, parce que je fais tout. Les tambours, les mocassins, les mitaines, les chapeaux, je fais tout. Les capteurs de rêve. Ben oui, je fais beaucoup de capteurs de rêve. Donc, je fais tout. Puis dans mon atelier, il y a des gens qui viennent, puis souvent, je vais leur montrer comment faire. Donc, j'ai plus de temps maintenant pour faire ça vraiment pendant le trimestre, mais j'ai hâte d'avoir du temps parce que j'ai vraiment plus de temps. J'ai vraiment, 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 le temps court après moi, là.
Mais c'est sûr que l'implication par rapport à la semaine Mamou,
oui,
par rapport à
tout ça,
c'est vraiment le nouveau cours à démarrer.
Ça a été beaucoup, beaucoup. La semaine Mamou, ça a été quelque chose de difficile pour moi. Je ne le cacherai pas parce que j'en ai eu de la coordination. Puis c'est un gros stress pour moi. Je ne suis pas habitué à ça, je suis prof. Je ne suis pas habitué à avoir autant de stress.
Ça demande de l'organisation.
Beaucoup d'organisation.
Il faut que tu aies du timing, il faut que tu négocies. Il y a beaucoup de choses. Puis en plus, quand tu es engagé, je sais que tu es quelqu'un d'engagé et entier dans ce que tu fais. Tu sais, tu peux pas faire ça à moitié.
Jamais, je peux pas.
Fait que là, si tu le fais à moitié, ben là, on n'est pas bien que ça. Fait que là, effectivement, tu sais, pour faire un petit peu un parallèle avec ce que tu dis, tu sais, tu as une grosse session, tu as une grosse période de travail dans, à l'intérieur des murs du collège. Oui. C'est sûr que le côté artisanat, tu sais, il est encore là, mais tu sais, c'est pour ça qu'il faut être sur la liste. Parce qu'il ne faut pas que ça soit anxiogène non plus pour toi.
Puis, tu sais, moi, je le fais, comme je disais, comme une médecine. Donc, ça me lie à quelque chose de plus grand que moi. Donc, quand je le fais, par contre, je le fais bien. Mais c'est parce que je veux le faire. Si je ne veux pas le faire, ça ne marchera pas. J'ai fabriqué une mitaine pour la semaine de Mamou parce qu'il y a un tirage de mitaine pour faire une bourse pour les étudiants autochtones. Puis, je l'ai faite avec tout mon cœur, cette mitaine-là. C'est comme si ça allait être pour moi parce que... Puis même, il y avait une petite affaire que je n'aimais pas, puis j'ai recommencé. Je veux dire, il faut vraiment que moi, ça soit comme moi je veux. Il faut vraiment que ça soit... Il faut que, quand j'ai fini un produit, il faut qu'il soit comme dans mon esprit. Parce que je reçois une image, un flash à un moment donné, il faut qu'il soit comme ça. Quand j'ai fini, s'il n'est pas comme l'image que j'ai reçue, il faut que je le change.
Ah, oh, ouais. Okay.
C'est étrange, hein? C'est quelque chose de mystique que je vous conte là. Puis c'est vraiment lié au domaine du rêve. Nous, c'est nos croyances aussi.
Tu sais, puis je ne sais pas si tu te souviens l'an dernier, Carlos, tu étais venu entretenir les étudiants justement sur l'art autochtone.
Oui.
C'était un peu ton entreprise. Parce qu'on
oui, c'est vrai.
On appelle ça un peu une entreprise aussi. Puis à ce moment-là, on t'avait posé la question, tu sais, est-ce que tu penses éventuellement passer le flambeau? Mais est-ce que tu viens de m'expliquer là, je veux dire... C'est difficile de passer le flambeau à quelqu'un parce que c'est une façon de penser, c'est une façon d'être. C'est
une médecine. C'est ça qui me guérit. Et c'est ça qui me lie à plus grand que moi. C'est une façon de prier. Oui. Faire une mitaine, faire un mocassin, pour moi, c'est une façon de prier. J'ai un rituel qui entoure ça. J'ai une façon d'être. J'ai un esprit, j'ai une musique, j'ai quelque chose. Donc, c'est un rituel pour moi. C'est comme une messe, si vous voulez, si on fait un transfert. Fait que je pense que les personnes qui reçoivent ce que je fais, je pense qu'il y a quelque chose de plus dans le produit qu'ils ont, parce qu'ils ont quelque chose de spirituel. Ils ont quelque chose qui a été inspiré par plus grand.
C'est pas un mocassin normal?
Non, c'est pas un mocassin normal. Souvent, vous allez aller dans les communautés, puis les mocassins sont faits en Chine. Faut vraiment pas vous faire prendre.
Faut regarder parfois. Comme
faut. Le made in Carlos.
Faut faire vraiment attention. Donc, ou souvent, ils sont faits à la machine. C'est correct, il y a des gens qui font à la machine. C'est correct, mais moi, je ne le fais pas à ma chaîne, je le fais à main. C'est pour ça que c'est long.
Mais moi, ce que j'aime, c'est l'audace et le courage que tu as d'assumer le fait que, tu sais, ça va me prendre plus de temps, mais tu sais, il y a une connexion avec tes valeurs, avec ta philosophie qui est en arrière. Puis, outre le produit, c'est toute la démarche pour être capable de le faire, ce qui fait en sorte aussi que c'est un produit qui est unique. Tu sais, quand j'ai acheté les deux capteurs de rêve le passé, écoute, finalement, je n'ai gardé un.
OK. Tu devais les offrir les deux.
Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un qui n'a pas eu le cadeau.
Ben, c'est lui-là là, que tu m'as rajouté puis que finalement, j'ai acheté en deuxième. Là.
Ouais.
Il est tellement hot. Là. Puis, il m'expliquait toute la particularité de ce capteur de rêve-là comparativement aux autres. Fait que là, pas le choix. Écoute, il y avait une griffe de je me souviens plus. Puis là, il y avait une plume de plat. Puis là, il expliquait tout ce qui est alentour. C'était impressionnant. Fait que là, tu te dis, Krim, si j'achète un capteur de rêve qui a été fait en série, en quelque sorte,
c'est pas bon.
C'est pas la même chose.
J'aurais pas la même chose. Puis moi, dans mes valeurs personnelles, je crois en cette spiritualité-là. Quand tu as quelque chose, tu sais, tantôt. Tu as fait le petit rituel de sauge, j'ai apprécié, moi je me sens bien. Puis on a parlé quand même de sujets qui étaient délicats parce que, puis moi c'est des sujets que je me dis, il faut qu'on en parle de ces particularités-là. Puis pourquoi qu'on a une semaine Mamu maintenant, puis pourquoi que, parce que là, moi je vois vraiment une différence avec les dernières parce que. Là, on sent qu'on a une conférence de presse.
Conférence de presse.
C'est gros, il y a des artistes.
C'est faite par des Autochtones aussi. C'est-à-dire que Wapistan, c'est une étudiante autochtone. Shawit, c'est un autochtone. Tous les danseurs de Mastoyach et de Mastoyach et de Robert West, ce sont des Autochtones, Atikamek et Innu. Je suis un Innu. Donc, à peu près tous les actants sont des Autochtones ou des personnes qui ont été référées par des Autochtones. Véril Ouellet est très, très aimée par les étudiants autochtones. Donc, elle a été choisie, elle, par nos étudiants.
C'est vraiment les étudiants qui l'ont choisie.
Vraiment, c'est elle qui l'ont...
C'est pas Valérie qui s'est imposée.
Non, c'est vraiment les étudiants qui ont dit « On l'aime, ce prof-là, à nous apprendre quoi? » Tu sais, fait que Valérie était vraiment contente. Puis moi, je suis content de l'avoir, Valérie, avec
c'est
nous.
Clair.
Elle est tellement compétente en plus. Puis, tu sais, fait que...
Il parlait ce matin... en conférence que suite bon, au printemps, il va y avoir une visite là, des écoles, des communautés.
Des communautés,
oui. Est-ce que toi, tu fais partie de ça?
Non,
je
n'irai pas. Ça ne fait pas partie de ma nature.
Okay.
Je ne suis pas capable de faire ça, moi. Je suis trop timide d'abord et avant tout. Je n'ai pas l'air timide comme ça quand vous me voyez. Je suis timide en maudit, là. Tu sais, conférence de presse ce matin, pour moi, c'était difficile, là. Puis commencer ici, là, je suis correct, je suis à l'aise. Mais je suis quelqu'un de timide, donc il y a quelqu'un... Moi, je suis libéré d'un cours pour faire ce que je fais maintenant. Donc, pour la semaine de Mamo, pour partir le local, superviser les étudiants autochtones qui en ont besoin. Ils ont engagé quelqu'un qui va commencer le 8 avril.
OK.
Donc, qui va venir justement faire ce que la tournée des communautés et tout ça. Moi, je vais pouvoir travailler avec lui au début, je vais pouvoir l'aider. Je l'ai accueilli tantôt, justement, il vient me voir à mon bureau.
OK. Alors,
ils vont avoir de la chance, les étudiants, c'est une belle et une bonne personne. Donc, ça va vraiment être le fun pour eux d'avoir une personne comme ça. Puis Cégep, c'est un beau cadeau pour eux aussi. Donc, c'est plus lui qui va faire la tournée des communautés. Pour nous, c'est important. On est affiliés à Rio Tinto, qui nous ont vraiment beaucoup aidés dans la semaine de Mamou, qui nous aident aussi pour la tournée des communautés. Donc, la tournée des communautés, c'est quoi? C'est d'aller faire la promotion du Cégep de Chicoutimi, de nos programmes dans les différentes communautés autochtones, pour les inviter à venir nous rejoindre. Bien sûr, dans cette tournée-là, on va parler du local autochtone, du cours qui s'en vient, du cours de français qui s'en vient, la semaine Mamou. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on crée maintenant, là, du comité de sécurisation culturelle que je pilote aussi pendant cette session aussi. Donc, il y a beaucoup de choses maintenant qui se passent, là, qu'il n'y avait pas avant, qui peuvent être attirants pour les étudiants autochtones venant de communautés.
Oui, qui peuvent être sécurisants.
Sécurisants, parce qu'on a besoin de sécurisation culturelle. Hein? C'est la mode, c'est un petit peu partout maintenant. Le système scolaire est en train de s'autochtoniser. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça l'autochtonisation. C'est difficile à dire.
Oui, c'est pas évident.
Donc, puis je suis en lien aussi avec Stéphanie Gay du Centre d'Octotonisation des Rives du Saguenay. Donc, eux autres travaillent, font du gros travail aussi dans les écoles primaires, secondaires, là. Ces personnes-là, on n'y pense pas, mais ils font du gros, gros, gros travail là, avec les jeunes autochtones. Il y a le Centre Mamik aussi, qui est vraiment important, tout près d'ici, tout près du Cégep. Donc, il y a beaucoup de choses à Chicoutimi. Il y a beaucoup d'éléments culturels qu'on peut aller chercher là, et qui sont intéressants et qui peuvent attirer des gens de provenance de communautés.
Oui, puis on est quand même la capitale régionale. Donc
exactement.
Si les gens ben, vont descendre de
là, l'université. Tu parles de Jonquière? Non, tu parles de Chicoutimi ou de Saguenay?
De Chicoutimi.
Ah, okay. Non, on n'est pas Chicoutimi.
On est plus vieux, du coup.
Chicoutimi. Donc, on parle de Chicoutimi. Il y a l'université, il y a ces jeunes de Chicoutimi. Donc, ça peut être attrayant. Là. Il y a le Centre Mamik à Chicoutimi. Tout ça, est dans, on peut tout faire ça
tout
à pied.
Tout est à côté.
Tout est à côté. Fait que, tu sais, ça peut être... attirant, attrayant pour des étudiants autochtones. Donc, c'est une belle tournée. Innu, puis Atikamekw aussi. Donc, la personne va faire les deux côtés. Du côté de Trois-Rivières, du côté de la Côte-Nord, jusqu'à Natashquan, je crois, là.
C'est bon.
Au Ouachat, je ne me souviens plus, là. Mais,
c'est une bonne tournée.
C'est une bonne tournée. C'est une tournée qui est essentielle, là, qui va vraiment...
On fait du bien.
Puis qui mise vraiment sur la fierté aussi qu'on a de recevoir des étudiants autochtones, de les aider dans leur parcours, de les accueillir. Puis dire qu'on est fiers d'eux.
Effectivement.
C'est beaucoup de fierté
d'avoir
des étudiants autochtones ici. C'est beaucoup, beaucoup de fierté. Je ne sais pas si les gens peuvent s'imaginer à quel point c'est de la fierté.
Non, c'est avec ce que tu nous racontes aussi, que non plus, la scolarisation, c'est pas nécessaire. Il y a une portion aussi culturelle à ça. C'est-à-dire que ça part de la famille dans laquelle tu as été élevé. Moi, je suis dans ma génération, en fait, dans ma famille, je suis dans la première génération d'universitaire. Puis j'y ai été pas parce que mes parents y ont été, c'est parce que j'ai eu le goût d'y aller. J'ai été chanceux à ce niveau-là. Mais moi, mes enfants, c'est sûr que j'essaie de faire la promotion cégep, université. J'essaie, pas que c'est meilleur qu'un DEP, par exemple, mais j'essaie vraiment de susciter en eux cet intérêt-là. Puis, tu sais, en parler, faire les tournées, dire aussi aux gens que c'est accessible, c'est possible. Quand c'est un peu loin, tu sais, dans le sens autant physique que ça ne fait pas nécessairement partie tout le temps des discussions. Mais effectivement, il y a une grande fierté, je pense, qui est associée à ça.
C'est une grande fierté, puis pour la communauté aussi, c'est une grande fierté. Si moi, je suis en communauté, puis mon enfant s'en va étudier à Chicoutimi, étudier à Chicoutimi quand même, tu sais, c'est quelque chose. Puis souvent, plusieurs retournent dans leur communauté ensuite.
Tout à fait.
Pour faire profiter leur communauté de leur savoir. Donc,
c'est une richesse.
C'est une grande richesse. Donc, ça apporte à la communauté, ça apporte beaucoup. Parce que le but, c'est que éventuellement tous les postes importants soient comblés par des Autochtones dans des communautés.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup d'enseignants allochtones qui vont enseigner à droite et à gauche parce qu'il n'y en a pas. Il manque d'enseignants dans les communautés. Il en manque des allochtones, imaginez, dans les communautés. Donc, le but, c'est que tous les postes soient complets éventuellement par des Autochtones pour des Autochtones. C'est ça, la prise en charge des Autochtones par eux-mêmes. Et c'est de ça qu'on a besoin.
D'arriver là, ce serait vraiment...
C'est ça. Le but, c'est ça. Le but ultime, c'est ça. De se délier de la tutelle gouvernementale, d'arrêter d'être considéré comme des mineurs, puis de se prendre en charge, puis de structurer nous-mêmes notre société.
Ah, c'est bon. Carlos, j'ai envie de donner une carte chouchou. J'en ai pas physiquement, mais moralement. Non, mais quand j'ai une carte chouchou, j'aimerais ça qu'à chaque fois que ça tente de venir... que tu dis, j'aurais un sujet que j'aimerais ça aller parler dans le balado.
Okay.
Tu m'envoies un petit message.
Merci.
Puis, tu sais, je pense qu'on a intérêt à discuter. Oui. Puis à en parler.
Ça commence comme ça, hein, la réconciliation. Ça commence par se rencontrer, en parler, puis démystifier des choses.
Oui, puis, tu sais, si dans ton entourage, tu as des étudiants qui veulent venir, je vais les rencontrer, on va préparer un sujet, on va leur faire vivre cette expérience-là de balado, parce que tout le monde peut gagner à ce qu'on se parle. Moi, je le pense. Fait que je te lance cette invitation-là sans pression, parce que je sais que tu as une to-do list. Puis que non, mais tu comprends ce que je veux dire. Je te le rajoute pas à tes tâches. Mais si tu as un flash, tu te dis à un moment donné, « Caroline, il faudrait que j'aille en parler. » Ou j'ai un étudiant que, hey, au jeu de nouveauté, on a fait un balado un peu plus long, parce que c'est une grande entrevue, je pense, pour notamment la semaine Mamou, puis tout ça. Mais c'est un sujet, on peut se faire une petite chronique, un petit 10 minutes avec les collaborateurs en table ronde, c'est tout le temps agréable.
Ah oui,
ça, fait que, je te lance cette opportunité-là.
Ben, merci beaucoup.
Puis tu vois, là, comme tu parlais de Nancy Vaillancourt est déjà venue dans le balado.
Ils font du beau travail en colline, ces filles-là.
Tout à fait.
Moi, j'ai beaucoup d'admiration, je l'ai dit tantôt, je le redis, là. Font vraiment du beau travail.
Fait que, tu sais, la porte est ouverte pour qu'on puisse en jaser. On a déjà reçu Mélanie Paul en entrevue aussi pour parler d'entrepreneuriat autochtone. Tu sais, fait que moi, de mon côté, ça va toujours être oui. Tu sais, puis on va s'organiser, puis que même si des fois les gens sont un peu gênés, on s'organise mettre les gens à l'aise. Puis dans ce temps-là, ben, au pire, on rajoute d'autres personnes. Puis comme aujourd'hui, c'est parce que Marc est à ma disposition, puis que je sais que c'est un...
Non, mais... Je suis proche.
Non, c'est pas que t'étais pas... On sait que c'est pas parce que t'étais pas à l'aise, au contraire, t'es fantastique, là. Tu passes très bien.
Non, puis Benoît, moi, quand tu m'as demandé pour être là avec Carlos, moi, ça me faisait plaisir, parce que Carlos, moi, personnellement, je l'admire. Je trouve que c'est une... Il y a une personnalité il y a quelque chose.
Puis vous deux, vous êtes dans un club select.
Oui, nous autres, on
que
est
moi,
vraiment...
Que moi, je ne fais pas partie. Mais que vous autres, vous êtes dans un club select.
Les mentions d'honneur.
Les mentions d'honneur.
Non, les mentions d'honneur. Fait que, tu sais, je me sens privilégié de vous avoir. J'ai eu deux mentions d'honneur.
Mais t'es vraiment chanceux qu'on a accepté de...
Effectivement.
Mais ça...
On va demander une signature. OK, alors, je vous remercie beaucoup, messieurs.
Merci beaucoup.
Alors, mes très chers, c'est sur ce que cet épisode prend fin. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça a suscité aussi peut-être de l'intérêt ou du questionnement sur les premiers peuples, les communautés autochtones. Si toi-même, tu fais partie d'une des communautés, viens voir Carlos ici au Cégep, prends ton information, ça vaut la peine. Et pour les Autochtones, ben écoutez, soyons ouverts puis prenons le temps d'écouter et d'établir la discussion. Je pense que c'est très important. Alors sur ce, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!